Avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le cercueil du général iranien Soleimani est honoré par une large foule rassemblée en ce moment dans le centre de Téhéran. Hommage aux soldats tués par les Américains vendredi. Vous entendrez toutefois qu'en Irak, ce même homme est décrié par la jeunesse irakienne qui l'accuse de répression violente.
Nous ferons le point aussi sur ce qu'il reste de l'accord de Vienne. L'Iran ne s'impose plus de limite à l'enrichissement d'uranium depuis hier soir.
Dans ce journal encore, parole donnée à l'avocate de victime d'Harvey Weinstein. 2 ans après le début du mouvement MeToo, le procès du producteur s'ouvre aujourd'hui à New York.
Et puis nous nous pencherons sur la mobilisation contre la réforme des retraites en France. Le texte est encore très flou, alors chacun propose ses pistes pour sortir de l'impasse.
Dans un quart d'heure enfin, dans son billet politique, Frédéric Saïs se demandera si les Verts sont mûrs ou non pour une alliance avec Cédric Villani. Il s'agit des municipales à Paris. Deuxième jour de deuil national en Iran. Deuxième mobilisation monstre dans les rues de Téhéran ce matin. La capitale est noire de monde en hommage au général iranien Qassem Soleimani, tué vendredi dans une frappe américaine à Bagdad. Nous retrouvons à Téhéran notre correspondant, Siavosh Ghazi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes entouré de manifestants.
C'est la foule des grands jours qui s'est réunie à Téhéran, des centaines de milliers de personnes afflue depuis plus de 2 heures vers le centre de la capitale avec des cris « mort à l'Amérique, mort à Israël », mais aussi « vengeance, vengeance ». De nombreux portraits du général Soleimani sont portés par les manifestants. Il y a beaucoup de femmes, des jeunes, mais aussi des gens plus âgés, des gens qui sont venus en famille, qui demandent que le pouvoir venge la mort du général Soleimani. Le général Soleimani, qui était très populaire à cause de son action contre Daesh et Al-Qaïda dans toute la région, notamment en Irak. Déjà hier, il y avait des foules impressionnantes dans la ville d'Arvaz, dans le sud-ouest du pays, et ensuite à Mashhad. Selon des témoins sur place, il y avait 1 million de personnes dans la ville de Mashhad. Et je peux dire aujourd'hui que c'est la foule des grands jours qu'on voit rarement à Téhéran, qui s'est réunie aujourd'hui pour rendre hommage au général Soleimani.
Merci Siavosh Ghazi, correspondant de RFI pour France Culture à Téhéran, où l'ayatollah Khamenei s'est recueilli il y a quelques minutes devant le cercueil du général Soleimani. Voilà donc pour l'hommage, mais tous n'ont pas le même avis sur ce général iranien tué par les Américains. Omar Ouaman est en Irak, à Bagdad cette fois. Il a rencontré des jeunes qui se réjouissent de cette mort. Ils accusent le représentant iranien d'avoir participé à la répression violente qui s'est abattue sur eux ces derniers mois. Écoutez.
Sur la place Tahrir, en plein cœur de Bagdad, épicentre de la révolte de la jeunesse irakienne, on ne regrette pas la mort du général iranien Qassem Soleimani, Nizar, une vingtaine d'années.
Pour nous, c'était un terroriste, comme Abu Bakr al-Baghdadi. Soleimani et Baghdadi sont les deux faces d'une même pièce. Il a détruit notre pays durant 16 années.
Pour ces jeunes, Qassem Soleimani est le symbole de la mainmise de l'Iran sur leur pays. Mohamed, 24 ans.
Quand on a appris la nouvelle, les gens sont sortis dans la rue et on a fêté ça. C'était une grande joie.
Et si certains jubilent, d'autres comme Tiba, une étudiante en sciences politiques, ont peur des représailles des milices pro-iraniennes.
Franchement, il était la cause de la destruction de notre pays, mais je suis inquiète pour l'avenir. Nous avons souffert toute notre vie. La peur ne nous a jamais quittés.
La peur de ces jeunes Irakiens, c'est de se retrouver au cœur d'une guerre entre l'Iran et les États-Unis.
Omar Ouaman à Bagdad pour France Culture, accompagné de Gilles Gallinaro. L'Irak, où le Parlement a souhaité hier le retrait des troupes américaines, plus de 5000 soldats y sont déployés. S'ils sont poussés dehors, les sanctions américaines pourraient être fortes, prévient déjà Donald Trump. Diplomatiquement aussi, les menaces s'enchaînent. L'accord de Vienne vole un peu plus en éclats. L'Iran ne s'impose plus de limites à l'enrichissement d'uranium, annonce faite hier soir, annonce attendue. Et la tension de ces derniers jours n'a pas changé la donne, bien au contraire, Valérie Crovin.
On le disait moribond, voilà que l'Iran vient d'enterrer encore un peu plus l'accord de Vienne. Le gouvernement iranien a expliqué qu'il n'existait plus d'entrave à son programme nucléaire, qu'il s'agisse du nombre de ses centrifugeuses, du degré d'enrichissement d'uranium ou de ses activités de recherche et de développement. La communauté internationale est prévenue. Mais l'Iran se dit prêt à faire machine arrière à tout moment. Si Washington accepte de lever les sanctions imposées depuis 2018, ce qui paraît peu probable vu le contexte. Après avoir dénoncé l'accord de Vienne, Donald Trump a décidé d'imposer une pression maximale sur la République islamique, plongée dans une grave récession économique. Face à l'inaction des puissances européennes, signataires de l'accord de Vienne, l'Iran avait déjà fait plusieurs entorses de taille à ses engagements en augmentant par exemple son stock d'uranium. Seul aspect positif des annonces d'hier soir, le gouvernement iranien continuera de coopérer avec l'Agence internationale de l'énergie atomique chargée d'inspecter ses installations nucléaires.
Une promesse qui ne rassure toutefois pas l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne. Les trois pays ont appelé tard hier soir les Iraniens à rester dans les limites de cet accord de Vienne signé en 2015. Donald Trump, lui, répète qu'il est prêt à frapper 52 cibles iraniennes. Il y a désormais deux chefs pour un seul hémicycle au Venezuela. Juan Guaido a été réélu hier président du Parlement par les députés d'opposition. Mais un peu plus tôt, son rival Luis Parra s'était autoproclamé chef du Parlement avec le soutien du gouvernement de Nicolas Maduro. Il a d'ailleurs empêché Juan Guaido d'entrer dans l'hémicycle au Parlement. Cacophonie politique racontée par Benjamin Delisle.
C'est au milieu de cris, d'insultes et d'échanges de coups de poing que Luis Parra s'est proclamé président de l'Assemblée nationale. Ce député d'opposition accusé de corruption, ancien fidèle de Juan Guaido, a été élu rapidement à main levée grâce aux députés pro-gouvernementaux. Mégaphone en main, il déclare incarner une troisième voie entre l'opposition traditionnelle et Nicolas Maduro.
Aucun des deux ne mérite d'être au Parlement. Il y a eu 21 ans de confrontation, 21 ans de disputes. Et quel est le résultat? Tout est pire qu'avant.
Seulement au même moment, Juan Guaido et des dizaines de parlementaires sont bloqués depuis des heures à l'extérieur du palais législatif par un cordon de policiers. Dans une tentative désespérée, l'opposant tente d'escalader les grilles du Parlement avant d'être violemment repoussé à coups de boucliers anti-émeute. Il dénonce un coup d'État parlementaire.
Il s'agit d'un nouveau piège politique du gouvernement, soutenu par des criminels, car c'est ce qu'ils sont. Quelqu'un qui ne respecte ni les normes, ni la constitution est un complice de la dictature.
Plus tard dans la soirée, l'opposant préside finalement une autre session parlementaire à l'extérieur de l'hémicycle et est élu à 100 voix par sa majorité. Résultat, en plus d'avoir deux présidents de la République, le Venezuela a désormais deux présidents du Parlement.
Benjamin Delisle, correspondant de RFI à Caracas pour France Culture. Alors que l'Australie continue de brûler, que 24 personnes au moins sont mortes depuis le début du mois de septembre, les promesses de dons pour aider le pays se multiplient. Des personnalités lancent des appels sur les réseaux sociaux notamment, tandis que des chefs d'État proposent leur aide. Emmanuel Macron évoquait ainsi hier une aide opérationnelle immédiate de la part de la France pour l'Australie, quand le Premier ministre canadien Justin Trudeau appelait lui ses concitoyens à faire des dons pour venir en aide aux victimes. Aujourd'hui, lundi, des réservistes de l'armée ont été déployés sur le terrain en Australie pour aider les pompiers après un week-end de forte chaleur. Le procès du producteur de cinéma Harvey Weinstein s'ouvre aujourd'hui à New York. Il est accusé de multiples agressions sexuelles. Un rendez-vous crucial pour le mouvement MeToo qui espère des sanctions pénales après avoir fait chuter de nombreux hommes au pouvoir ces deux dernières années. Le procès qui va se tenir ne concerne que deux accusatrices. Leur avocate Gloria Allred, 78 ans, se bat depuis 40 ans pour défendre les femmes agressées sexuellement ou violées. Elle est très médiatisée aux États-Unis et voici à ses yeux ce qu'a apporté l'explosion du mouvement MeToo.
I think what's changed is women. They have become empowered. And empowerment is contagious.
Je pense que ce qui a changé, c'est le fait que les femmes ont gagné plus de pouvoir. Et cette force qu'elles ont acquise est contagieuse. Elles se disent, OK, peut-être que maintenant, on va me croire. Avant, elle pensait, cet homme est puissant, et moi pas, je ne veux pas parler, sinon je risque d'être mise de côté professionnellement, je ne travaillerai plus. Peut-être que les gens ne me feront plus confiance. Ces femmes peuvent aussi avoir peur si elles racontent ce qui leur est arrivé, que l'homme en question les poursuive en diffamation. Ça s'est déjà produit dans certaines affaires. Donc, il y avait de nombreuses raisons pour elles de ne pas parler. Mais maintenant, c'est un jour nouveau parce que les femmes ont gagné cette force.
Des propos recueillis et traduits grâce à notre correspondant à Washington, Grégory Phillips.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Le gouvernement fait sa rentrée.
Oui, avec un traditionnel petit déjeuner au ministère de l'Intérieur ce matin, place Beauvau, suivi d'un conseil des ministres à l'Élysée. Une rentrée largement dominée par la réforme des retraites. Sous le coup d'une forte contestation, 33e jour de mobilisation ce lundi. Alors que le président Emmanuel Macron a dit lors de ses vœux de fin d'année vouloir un compromis rapide. Bonjour Annabelle Grelier.
Bonjour Clara.
Ce matin Annabelle, deux pistes de sortie de crise sont sur la table. Une grande conférence sur la question de l'équilibre budgétaire, proposition de Laurent Berger à la CFDT. Et puis il y a la proposition de Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale. Dans une interview au Parisien, il propose Annabelle un âge pivot temporaire.
Oui, comment sortir de ce bras de fer sans avoir l'air de reculer? Car c'est bien la question qui se pose ce matin. Le gouvernement reprend son train de concertation avec un calendrier bien précis. Il veut aboutir pour le 24 janvier avec une présentation du projet en Conseil des ministres. Et de l'autre côté, les syndicats continuent leur mouvement de grève et manifestation avec un front malgré tout uni et une opinion publique toujours majoritairement de leur côté. La première proposition vient de la CFDT. En effet, Laurent Berger souhaite que le gouvernement dissocie la question budgétaire de la question structurelle. C'est-à-dire que la mesure d'âge, le fameux âge pivot imposé par le gouvernement à 64 ans avec un bonus-malus, pour ramener le système à l'équilibre financier, soit négocié à part, dans une grande conférence. Ce qui aurait l'avantage pour la CFDT d'éclaircir le débat et surtout d'éclaircir sa position, car si elle est pour un système universel à points, elle est contre l'âge pivot qui est venu se rajouter dans les dernières semaines de concertation. Cela pourrait-il suffire à ramener les syndicats réformistes du côté de l'exécutif? Sans doute pas totalement. Alors Richard Ferrand ouvre une issue possible sur cet âge pivot. Il propose que le bonus-malus soit temporaire. Il prend l'exemple de l'Agirc-Arrco qui existe déjà, c'est que le malus est maintenu le temps que vous atteigniez le nombre de trimestres ou de points plus tard de cotisation. Ensuite, vous récupérez votre retraite à taux plein, ce qui n'est pas le cas, vous l'aurez compris, dans le dispositif imaginé à l'heure actuelle par le gouvernement. Si vous partez à la retraite avant, vous gardez votre niveau de retraite minoré jusqu'à la fin. La CFDT ne s'est pas prononcée sur cette nouvelle option, mais les autres syndicats réformistes comme la CFTC y sont favorables. Donc, en ne gardant que l'idée du bonus, on reste sur une idée incitative pour faire travailler les Français plus longtemps et non plus punitive. Si cette proposition devait être reprise par l'exécutif, ce serait en effet un premier pas vers les syndicats réformistes. Pas non plus une baguette magique, hein. Rappelons que tous les autres syndicats sont pour le retrait pur et simple de cette réforme, sans parler donc qu'elle ne règle absolument rien, hein, sur le problème d'autres organisations comme celle des professions libérales qui veulent, elles, conserver leur régime autonome.
Autant de propositions qui seront analysées, discutées dans les jours qui viennent, puisque les négociations reprennent a priori demain avec le gouvernement. Merci beaucoup Annabelle Grelier pour ce point matinal. Le trafic aujourd'hui reste très perturbé, en tout cas en Ile-de-France, dans les transports, à la RATP, un petit peu moins à la SNCF aujourd'hui. La CGT Chimie promet une mobilisation nationale par ailleurs dans les raffineries à partir de demain, avant deux journées interprofessionnelles de mobilisation prévues jeudi et samedi. Au chapitre des contestations qui s'intensifient en ce début d'année, soulignons aussi que les avocats débutent une grève dure aujourd'hui. Ils estiment que la réforme pourrait se traduire à la fois par un doublement des cotisations et une baisse des pensions pour leur profession. Laurence Roch, ancienne présidente du syndicat des avocats de France, s'en explique.
Ce régime n'est financé que par nous-mêmes. Il est autonome et par ailleurs, nous, puisqu'il est excédentaire, nous participons déjà au régime général, puisque nous versons à un certain nombre de caisses de retraite, de régimes qui, eux, sont spécifiques. Et la deuxième particularité de ce régime, c'est une solidarité totale. Quelle que soit la carrière de l'avocat et quelles que soient ses cotisations, il partira avec un minimum qui est de l'ordre de 1 400 €. Autrement dit, les confrères qui vont avoir fait de l'aide juridictionnelle, participé au service public en tant qu'avocat commis d'office et qui auront donc des moins belles carrières que les gros cabinets, auront en revanche une certitude quant à une retraite digne. Ce régime fonctionne très bien. On cotise déjà au régime général, donc il n'y a aucune raison que vous y touchiez, surtout si c'est en plus pour le détruire. Parce que le toucher pour éventuellement que cette solidarité soi, le principe même pour tout le monde, pas de problème. Mais si c'est pour détricoter cette solidarité et faire un régime qui n'a rien d'universel et qui en plus ne profite qu'aux plus riches, c'est une véritable rupture.
Des propos recueillis par Isabelle Souquet. Il a crié « Allahu Akbar », il était armé d'un couteau et menaçait des passants. Un homme a heureusement été arrêté hier à Metz sans faire de victime. Les policiers l'ont blessé à la jambe pour pouvoir l'interpeller. Le parquet de Metz dit avoir pris contact avec le parquet national antiterroriste pour une évaluation de cette affaire. Le suspect était fiché S. Il fera doux et sec sur l'ensemble du pays ce lundi jusqu'à l'arrivée de la pluie par l'ouest cet après-midi. Les nuages bas et quelques bandes brouillard devraient rester bien présent sur le nord-est et sur le centre. Ce matin, comptez 1 degré à Strasbourg et Lyon, 2 degrés à Lille, Rennes et Paris, 3 à Clermont-Ferrand, 10 degrés à Marseille.
Merci Clara Lecoq-Réal.